Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Morgane. Voilà un des avantages du confinement. Je reprends petit à petit contact avec les darons qui devaient se déplacer jusqu'à moi à Paris pour finalement leur proposer de faire notre épisode à distance. Morgane est kiné à Angers et il a une particularité puisque depuis qu'il est enfant, il a une maladie génétique qui lui cause une déficience visuelle. Dans cet épisode, il nous raconte comment sa maladie a impacté sa décision de faire un enfant, comment la venue au monde toute récente de son fils a joué sur son rapport à son handicap et à quel point il existe pour l'instant peu d'infos et de conseils pour les pères déficients visuels. Et en bonus, vous aurez même droit au récit du jour où il a fait un spermogramme pour vérifier sa stérilité au tout début de leur parcours PMA. Un grand grand merci à Morgane pour sa disponibilité et son honnêteté, j'espère que cet épisode vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast, ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de Succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Morgane. Bon, on est avec Morgane. Salut Morgane.
Salut Fabrice.
Tu fais partie des darons que je devais rencontrer en tête-à-tête de vive voix. Mais effectivement, le confinement nous oblige un petit peu à changer de fusil d'épaule. Et donc, je me suis dit, autant reprendre contact avec Morgane, ça sera cool.
Effectivement. Écoute, tout ça m'a fait économiser un voyage.
Parce que Morgane, tu vis où actuellement?
Je suis à Angers. Je suis kiné dans un hôpital.
D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu m'as écrit? Parce que t'as une particularité de daron. De ton côté.
Exactement. Donc en fait, je suis déficient visuel, je suis atteint de ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire. C'est une pathologie de la rétine qui fait que la vision baisse petit à petit, dans certains cas va jusqu'à la cécité. Et je suis papa depuis quelques mois.
D'accord. Comment t'en es venu, toi, de ton côté, à vouloir devenir papa, alors ?
Écoute, c'est pas récent comme envie parce que l'envie a toujours été là. On va dire que quand j'étais ado, je me disais à 18 ans, je serai papa.
Ah ouais.
Puis bon, à 18 ans, quand je suis devenu, j'ai eu 18 ans, je me suis dit finalement, allez, 25 ans. Puis bon, enfin 25 ans, j'ai dit on verra quand on aura 30 ans. Et puis la vie a fait que, j'ai rencontré ma compagne, j'avais 27 ans, et puis...
Qu'est-ce qui faisait qu'à 18 ans, tu voulais devenir papa, quand t'étais ado?
Honnêtement, j'en sais rien, c'est un truc qui m'a toujours tenu, j'ai toujours voulu être papa, j'ai toujours voulu transmettre ce que je connaissais, j'avais certainement aussi des neveux et nièces, j'ai un grand frère... qui est plus âgé que moi, qui va avoir 50 ans cette année.
Ouais.
Et du coup, j'ai une nièce de 19 ans, qui est de 20 ans bientôt, qui est la marraine de mon fils.
Okay.
Et un petit-neveu qui a 15 ans.
D'accord. Et donc, tu disais que tu avais rencontré Marie il y a 6 ans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Comment chemine l'idée de faire un enfant ?
L'idée de faire un enfant... Alors déjà, on en a parlé au début de notre relation. On s'est dit que, l'un comme l'autre, on voulait des enfants. Parce que mine de rien, c'est quand même un sujet important quand on se met ensemble dans l'objectif de faire une vie à deux. On se dit, est-ce que l'autre en veut ? Parce que sinon, ça ne va pas forcément le faire. Et en fait, on en voulait tous les deux. On en a discuté tranquillement. Et puis, au bout de quelques années... Les copains commençaient à en avoir, et puis nous, on s'est posé la question. Et du coup, s'est posé aussi la question de mon problème génétique.
Depuis quand tu es au courant exactement que tu as cette maladie ?
Alors en fait, ça s'est déclaré. Enfin, je l'ai su quand j'étais en CP. Je devais avoir 5-6 ans, un truc comme ça. En CP, en fait, à un moment, on passe toute une batterie de tests, à voir si on va bien au niveau visuel, tout ça. Et puis finalement, on a trouvé ça. Il y avait un petit défaut, tout ça. Donc je suis passé de médecin en médecin, d'ophtalmo en ophtalmo. Et on a dit ça à ma mère que j'avais une rétine pigmentaire. Après, ça a évolué tout doucement. Enfin, ça a commencé en fait par des problèmes de vue la nuit. C'est-à-dire, quand l'obscurité arrivait, les copains continuaient à jouer au foot quand j'étais ado. Et puis, moi, en fait, quand la nuit arrivait, j'arrêtais de jouer, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. J'ai quand même passé mon permis, que j'ai raté. Puis, vu que j'ai fait mes études à Paris, c'était pas bien grave.
Ouais.
Et puis après, depuis que j'ai 24 ans, ça a baissé avec un champ visuel très réduit. La nuit, j'y voyais quasiment plus rien, à part les points lumineux des lampadaires. Et du coup, ça se fait très très progressivement en fait.
D'accord. Comment tu vis toi le fait de... Parce que j'imagine que c'est un vrai truc, même si tu y es préparé. Le fait de voir.
Ouais, alors je dirais que la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours vécu avec. Contrairement à d'autres qui apprennent ça plus tard.
Ah, ça peut se déclencher plus tard, c'est ça ?
Alors il y en a certains qui disent que ça se déclenche plus tard, mais le truc, c'est surtout que les vrais problèmes de vue un peu lourds arrivent plus tard et les gens consultent plus tard. Donc j'ai connu des gens qui avaient consulté à 19 ans. Et qui apprennent ça à 19 ans, t'es en pleine force de l'âge et tu te dis waouh, qu'est-ce qui me tombe sur la tête. Mm-hmm. Alors que moi j'ai toujours été préparé, donc c'est pas c'est bien sûr que c'est un calvaire au quotidien quand tu si tu fais des courses de galérer à trouver un paquet de pâtes parce que tu vois mal de prendre des trucs dans les jambes parce que tu vois mal, mais c'est pas je le vis pas mal moralement, quoi. Je le vis même très bien.
Ok, donc t'es en train ce que tu me disais dans ton mail aussi, c'est que t'étais en train petit à petit de te préparer à devenir aveugle aussi. Ça doit être un sacré chemin, ça.
Ouais, alors c'est pas tant se préparer à devenir aveugle, parce que je sais pas si je vais le devenir ou si je vais pas le devenir, j'en sais rien. Et puis la recherche avance et ça c'est génial. Enfin, il y a plein de choses. On voit ça notamment au Téléthon. Moi, je me tiens informé. Donc il y a plein de choses qui avancent. Donc je sais pas si je vais devenir aveugle, mais ce que je te disais effectivement dans le mail, c'est que j'ai pris ce qu'on appelle des cours de locomotion, c'est-à-dire des cours pour savoir utiliser une canne blanche, et puis des cours d'orthoptie pour rééduquer le champ visuel qui me reste et m'apprendre à m'en servir au mieux. Parce que effectivement, avoir une canne blanche, alors avant j'étais toujours réfractaire à cette idée, parce que le regard des autres et tout ça... Et finalement, écoute, il y a un moment quand tu vas devenir papa, tu te dis « Merde, va falloir que je m'en occupe, mais que je m'en occupe en sécurité. » Donc il ne s'agit pas de se prendre un poteau quand j'aurai mon enfant dans un porte-bébé.
Ouais.
Ce serait dommage. Ou de traverser en danger et tout ça. Donc la canne blanche est surtout là pour mes déplacements de nuit. Et la journée pour se signaler, en fait.
Okay.
Et du coup, c'était vraiment l'objectif de faire ça pour mon enfant et pour me dire qu'il fallait que je sois autonome et que je ne compte pas sur les autres. Et voilà, cette image de ne pas renvoyer mon papa, c'est un boulet, quoi.
Ok. Ce que tu me disais aussi, c'est que cette maladie est génétique, c'est ça ?
Ouais, et donc potentiellement héréditaire.
Ah. Mmh.
C'est ça. Et du coup, après, donc il y a 63 gènes, je crois, détectés aujourd'hui sur cette pathologie-là. 63 gènes différents. Donc 63 possibilités différentes pour que cette maladie vienne de ce gène-là ou ce gène-là. Et il faut faire une analyse génétique pour savoir d'où vient le gène et pour savoir si ça se transmet ou pas à l'enfant qu'on va avoir. Et de quelle manière ? Est-ce que ce gène est dit héréditaire ou est-ce qu'il est dominant ? Donc héréditaire, c'est-à-dire que si les deux parents l'ont et donnent leur gène, eh ben l'enfant va déclarer la maladie. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul qui donne son gène, eh ben l'enfant n'aura pas la maladie, mais il va le retransmettre de génération en génération, potentiellement. Par contre, si c'est dominant, l'enfant a beaucoup plus de chances d'avoir le gène. Et en gros, il a une chance sur deux d'avoir le gène et de déclarer la maladie.
Alors j'imagine que de ce fait-là, ta maladie prend une toute autre dimension quand il s'agit de te dire on va faire des enfants. Comment t'as vécu ça, toi, de ton côté ?
C'était à la fois... c'est vrai qu'avant, ça me touchait moi. C'était mon problème à moi. Je suis le seul de la famille. C'est mon problème à moi. C'est pas grave. Ça touche personne d'autre. Ça atteint pas mes proches. Mais le jour où tu vas avoir un enfant, effectivement, tu te dis... mince, il y a peut-être un risque. Et puis, avec ma compagne, on s'est dit, on va faire un enfant, mais il va d'abord falloir faire une analyse génétique pour savoir d'où ça vient. Est-ce qu'on va le transmettre ? Est-ce qu'on est sûr de le transmettre ? Est-ce que si on est sûr de le transmettre, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour avoir un enfant ? Est-ce que dans le pire des cas, en dernier recours, on va dire, est-ce que l'adoption, tout ça. Donc, du coup, je suis allé faire une analyse génétique au CHU d'Angers. Et donc, on fait une prise de sang. Ils envoient les échantillons de sang dans deux labos différents en France. Et ils regardent, ils comparent par rapport aux gènes qu'ils connaissent, parce qu'il se peut aussi qu'ils ne trouvent pas la cause, qu'ils ne trouvent pas le gène, parce qu'il y a encore des gènes qui sont inconnus, certainement. Et 6 mois plus tard, je reçois un courrier pour me dire que moi, c'est un gène qui est récessif, mais lié à l'X. Donc, c'est les chromosomes sexuels. Ouais. On a un chromosome X et un chromosome Y quand on est un garçon. Et quand on est une femme, on a 2 chromosomes X. Donc, ce qui en est ressorti, alors moi j'avais déjà pas mal lu tout ça, je me rappelais de mes cours de génétique du lycée, et du coup, ce qui en est ressorti, c'est que si j'avais un garçon, je donnais mon chromosome Y, donc du coup pas le chromosome avec le gène malade, et du coup si j'avais un garçon, on était tranquille, il n'y avait pas de souci.
Okay.
Par contre, si j'avais une fille, je donnais mon chromosome X, mais comme le gène est récessif, elle n'aurait pas la maladie ou très très peu, c'est-à-dire qu'elle serait un petit peu gênée par le soleil ou des choses comme ça. Mais par contre, elle aurait le risque de le transmettre à ses enfants et notamment à des garçons. Si j'ai une fille et qu'elle a des garçons, ils auront la même maladie que moi en fait. C'est un peu compliqué tout ça, j'espère que,
non,
tout le monde arrive à suivre.
Si, c'est très clair, c'est très très clair. tu me parlais aussi d'un début de parcours PMA, c'est ça ?
Ouais, exactement, parce que une fois qu'on a eu les résultats, on s'est dit on se lance, on a peu de risques d'avoir un enfant malade. Et puis, si c'est une fille, elle aura très peu de risques. Et d'ici à ce qu'elle-même ait des enfants, il y aura certainement une solution pour ça, parce que la recherche avance bien. Donc, on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Et sauf que les mois avancent, les tests défilent, et puis rien.
Okay.
Rien du tout. Et du coup, on voit les enfants qui arrivent autour, on commence à se dire mince, il y a un problème, peut-être qu'il y a un problème. Donc, avec ma compagne, on est allé consulter dans le parcours de PMA pour savoir s'il y avait un problème ou pas. Donc, premier rendez-vous, on discute. On vous pose des questions hyper ciblées. Monsieur, avez-vous des problèmes d'érection? Enfin, que des choses comme ça. Donc, c'est hyper perturbant, en fait, ma compagne, elle est infirmière. Pour deux professionnels de santé, de se retrouver de l'autre côté de la barrière.
Ah oui.
Et c'est assez perturbant. Et puis, on répond, parce que de toute façon, on sait qu'il faut, et voilà. Et puis après j'ai eu une analyse du coup de sperme, savoir si les spermatozoïdes y en avait assez, s'ils étaient assez vigoureux, s'il y avait un problème. D'ailleurs j'en profite pour parler de ça. C'est vraiment perturbant comme truc, parce que vous rentrez dans une petite salle qui doit faire 2 mètres carrés. Vous avez un fauteuil, on vous dit si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Première idée qui vous vient, c'est je ne sais pas qui s'est assis ici, je ne m'assois pas. On vous dit là, vous avez une télécommande qui est dans un sachet cellophane, vous pouvez regarder la télé si vous voulez. Non, merci. Vous vous lavez les mains, vous
alors,
vous
parlez. C'est pas la télé qui passe.
Ah non, c'est pas la télé, ouais. C'est
pas Sophie
films
d'avant.
Qui... C'est ça. C'est plutôt des films qui sont faits pour vous stimuler. Et il faut se laver les mains, se laver les parties génitales. On vous donne un petit récipient qu'il faut remplir. Et puis après, vous mettez ça dans une porte, derrière une petite porte qui est derrière un mur. Et derrière, il récupère ça sans vous voir. Et puis vous sonnez, vous partez. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai un super souvenir de ça qui est ridicule, mais qui m'a fait marrer sur le coup. C'est que la petite coupe qu'on doit remplir, elle ressemblait vraiment à la coupe de la Ligue des Champions.
Ah bon?
Et du coup, une fois remplie, je l'ai levée et j'avais la musique de la Ligue des Champions dans la tête. Je me suis dit, bon allez, on s'en va quand même. Donc j'ai mis la petite coupe dans le mur, dans le réceptacle, et j'ai sonné, je suis parti. Donc c'est vraiment un truc hyper perturbant, mais c'était fait. Puis après,
un peu l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, quoi. C'est ça,
c'est ça. Alors tant qu'on n'est pas sorti, c'est ça. Par contre, une fois qu'on sort dans le couloir, comme tous les autres mecs qu'on a vu passer dans le couloir, on baisse la tête et on fonce, on s'en va. ma compagne devait passer des examens, elle aussi. Avant qu'elle passe les examens, elle avait un retard et du coup on a passé elle a fait un test et c'était positif.
Ah, okay.
Donc ma compagne était enceinte avant même de passer les examens. Il y a juste moi qui ai eu le droit.
Ça reste un bon souvenir.
Ouais, voilà. De toute façon, c'est une fois que ta compagne est enceinte, c'est vrai qu'on réfléchit plus, quoi.
Ouais.
C'est fait.
Bon, comment ça se passe la grossesse?
La grossesse, pas mal. Ma compagne n'a pas été gênée trop par les nausées. Quelques petites nausées, mais très légères. Donc, un premier trimestre, ça allait. Après, encore une fois, en professionnel de santé... On a tous les risques liés à la grossesse qui viennent tout de suite en tête, les risques de fausse couche, on a des pourcentages qui nous montent dans la tête. Donc c'est un petit peu stressant, mais globalement ça se passe bien. Même très bien. C'est premier trimestre assez détendu comparé à d'autres, et puis second trimestre très cool. Après, troisième trimestre fatigant, quoi. Fatigant. Mais. Ça s'est bien passé de manière générale.
Comment se passe l'accouchement?
Attends, avant ça, un petit truc. Alors déjà, il y a l'écho, la première écho où je me disais, est-ce que je vais voir, est-ce que je vais pas voir. Et en fait,
Pourquoi t'hésitais?
J'ai pas hésité à y aller. C'était la question de est-ce que je vais réussir à voir quelque chose
sur l'écran. Pardon.
Pour moi, il était hors de question de rater ça.
Okay.
Je suis allé à toutes les échos et c'était super. Et en fait, j'y suis allé. La première, on devine des formes, mais on comprend pas trop. Mais en fait, j'étais, j'ai, on, j'étais sur un nuage, quoi. C'était dès que je voyais un truc, parce que j'ai bien réussi à voir finalement, et dans ma tête c'était incroyable, et j'arrêtais pas de répéter ça en boucle. Et puis bah après, deuxième écho, on entend, alors je sais plus si c'est à la première ou à la deuxième, où on entend le cœur du bébé.
Ouais.
Et là c'est un moment magique, quoi. C'est vraiment magique. C'est disons que ça devient concret pour un homme, ça devient vraiment concret. Et oui. D'ailleurs, je parle de ça, j'ai vu il y a pas très longtemps dans des articles, il y a des endroits en France où pour les déficients visuels ou les personnes aveugles, où maintenant ils proposent, parce que tu sais, tu peux faire des échos 3D.
Oui.
Alors, nous, on n'a pas eu ça. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est grâce aux imprimantes 3D, justement, d'imprimer cet écho 3D, ce qui fait que les parents non-voyants, principalement, ou très malvoyants, peuvent découvrir le bébé au
avec
toucher.
Les doigts.
Wow. Ouais, c'est génial comme truc. Et je sais plus où ils font ça, c'est à Strasbourg, ou, mais c'est vraiment une idée géniale, quoi.
Ok.
Donc voilà, donc les échos se passent bien, on commence à sentir le bébé bouger. Et puis truc génial, c'est que un jour, moi, je me suis dit, allez, je pose mon oreille dessus histoire de voir. Alors, au début, j'entendais des bruits. Je me disais, c'est des bruits de mouvement, et j'en étais quasiment sûr. Notre sage-femme libérale m'a dit, bah écoutez, c'est possible. Et jusqu'au jour où, en mettant l'oreille sur le ventre, alors ça marchait pas à tous les coups, mais en tout cas, ça a marché plusieurs fois, ça c'est sûr. Je me suis rendu compte que j'entendais le cœur du bébé.
Ah, génial.
Ouais. Et quand j'en ai parlé à la sage-femme, je dis, mais est-ce que je fabule, parce que je suis allé voir sur internet, alors truc à pas faire, hein, parce qu'il y a de tout. Et
concerne la santé, allez pas sur internet.
Non, c'est ça. N'allez pas sur Doctissimo. Non. Et du coup, la sage-femme me dit, bah écoutez, c'est possible, parce que notamment les médecins avant écoutaient avec ce qu'on appelle un cornet. Donc c'était une sorte de cône qui remplaçait les stéthoscopes à ce moment-là. Et du coup, j'étais conforté dans l'idée, et vraiment ça correspondait au rythme cardiaque d'un fœtus, quoi. Donc moment magique, donc à tous les papas, essayez de faire ça. Alors ça marche pas à tous les coups, mais pour moi ça a marché en tout cas.
Ah, c'est très cool.
Ouais, c'est vraiment un truc génial, quoi.
Ok.
Et puis après l'accouchement, donc un dernier soir de novembre, on se couche fatigué. Je dis à ma compagne, 23h, je suis crevé, je suis content de me coucher. On était un samedi soir. J'étais vraiment content de me coucher, et elle me dit, tu me mets de la crème sur les pieds, s'il te plaît. Non, j'ai la flemme. Donc je m'allonge. Elle se tord dans tous les sens pour réussir, parce qu'à 9 mois, essayer d'atteindre ses pieds avec la crème, c'était un peu du sport. Et donc elle arrive à se mettre de la crème sur les pieds. Et quand elle s'allonge, elle me dit, j'ai entendu un crack.
Est-ce que tu es en train de me dire qu'elle a accouché parce que tu as refusé de lui mettre de la crème sous les pieds?
Bah écoute, potentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est possible. Donc je lui ai mis de la crème sur les pieds, de l'huile sur le ventre pendant toute la grossesse. Mais là, ce soir-là, je n'ai pas voulu. Et c'est peut-être ça qui a provoqué l'accouchement, c'est possible. Et donc elle me dit, j'ai entendu un crack, elle se redresse. Elle me dit, je crois que j'ai une fuite. Premier truc, c'est horrible, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, j'étais tellement fatigué, je me dis, voilà, pourvu que ce soit une fuite urinaire. C'était d'un égoïsme parfait. Mais et puis elle se redresse, et là, effectivement, elle avait perdu les os. Ouais. Donc, branle-bas de combat, allez hop, je vais chercher une serviette. On se dépêche. Moi, j'étais tout affolé. Bon, vite, faut aller chercher. C'est elle qui me détendait, qui me dit, non, mais c'est bon, on a le temps, on a 2 heures pour aller à la maternité. On se détend, je vais aller prendre ma douche. Et puis, du coup, on habite pas loin de la maternité, mais moi, du coup, j'ai pas le permis. Et ma compagne, on voulait pas qu'elle conduise en étant enceinte, ouais. Sur le point d'accoucher. On se disait avec les contractions, tout ça, on ne sait jamais. Les Uber, Angers, s'il y en a deux, c'est peut-être le maximum, je pense. Et du coup, c'est une compagne, une amie à nous qui habite pas loin, qu'on a appelé, avec qui on avait prévu plein de personnes, mon beau-frère, ma belle-sœur. Ma sœur, des voisins, des amis. On avait, je ne sais plus, 7-8 personnes à appeler au cas où.
C'est pas mal.
Et ouais, ça allait. On était prêts de ce côté-là.
Ouais.
Et du coup, on appelle cette amie. Et donc, elle arrive. Ma compagne était à la douche ou en train de se préparer. Elle sonne. Elle n'arrête pas. J'ouvre la porte. Et là, je passe un bonjour à Clémence d'ailleurs, parce que je pense qu'elle écoutera ça. Et j'ouvre la porte, elle me dit « Allez, on y va tout de suite, on y va !» Je dis « Non, on se calme, Clémence, elle a perdu les os, on se détend. Tu sais ce que c'est, t'as déjà eu un enfant. » Donc, elle rentre, on se détend, on prend les affaires, on emmène le coussin d'allaitement, on emmène tout. Et puis, c'est parti, on arrive à la mater. Alors, ma compagne avait pris sa douche, et puis, au bout de 30 secondes, le pantalon était déjà trempé, parce qu'elle continuait de perdre les os. Et on arrive à la mater, on sonne, on nous fait rentrer, parce qu'il est quand même minuit à ce moment-là quand on arrive. Et puis, du coup, on nous dit, asseyez-vous. Ma compagne dit, non, je veux pas m'asseoir, c'est pas possible. On voit une première sage-femme qui nous dit « allez-y, vous allez aller en salle d'accouchement parce que ça y est, c'est bon, ça arrive, quoi. » Donc, super, on va en salle d'accouchement. Puis, on savait que ça pouvait durer un moment. Et effectivement, ça a duré un moment, parce que ma compagne, elle a accouché le lendemain. On est arrivé à minuit, elle a accouché à 13h21. Et encore, je pense qu'il y en a qui mettent plus de temps que ça. Pour un premier, ça allait. Et tout se passe bien. Ma compagne gère super bien les contractions. On avait été au cours de préparation à la naissance. J'ai rien fait du tout de... Enfin, on n'a rien fait du tout de ce qu'on nous avait dit.
Ok.
Mais bon, ma compagne gère super bien le truc. Et au bout d'un moment, le cœur du bébé, il commençait à descendre un peu à chaque contraction. Il baissait, alors il remontait. Puis on nous dit, faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les descentes et les remontées. Donc on regardait le rythme, et puis à chaque fois ça descendait de plus en plus et ça remontait de plus en plus. Puis à un moment, tout le monde arrive en trombe. Vous inquiétez pas, on met une péridurale, c'est juste pour au cas où, pour faire descendre les contractions. Tu dis, prenez-moi pour une pomme, je sais très bien que c'est pas pour faire descendre les contractions, c'est au cas où il y a besoin d'une césarienne, comme ça on sera prêt, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ma compagne voulait accoucher sans césarienne, mais sans péridurale, donc raté, donc péridurale, et puis ça suit son cours, et puis on revient nous voir un moment, et puis. Puis on nous dit, il est à 13h, je reviens, et c'est parti, on s'y colle, quoi. Ok, donc c'est parti. Puis petite anecdote sympa, c'est que à ce moment-là, à 8h du matin, quand l'équipe a changé, moi je dormais sur le fauteuil, et à un moment j'ouvre les yeux, et la sage-femme qui était en poste à ce moment-là, c'était notre voisine. Notre nouvelle voisine, parce qu'on a acheté une maison quelques mois avant.
Ok.
Et du coup, c'était notre voisine, Fabienne, que je salue aussi.
Salut Fabienne.
Et donc, c'est elle aussi qui a mis au monde notre enfant.
Ah, c'est cool.
Donc, truc génial. Et donc, ils arrivent, ils se préparent, 13h, 13h05, on s'y met. Moi, je me prépare pour un marathon. Je me disais, ça va durer 45 minutes. Et donc, je me mets à côté de
Marie.
De Marie. Ouais. Et oui. Je me prépare, je lui dis allez, c'est parti, on y va. Et un quart d'heure plus tard, à peine, notre fils est venu au monde. Et là, c'est magique. C'est juste magique. Je savais que j'allais pleurer, mais pas à ce point-là.
Ah ouais?
Ouais, vraiment, c'est. Il y a un moment, elle dit on voit la tête. J'ai passé la tête par-dessus le champ, par-dessus le drap pour voir. Et là, j'ai fondu en larmes, quoi. C'est pas descriptible, en fait, comme sensation. C'est un truc incroyable. Et puis, après, on vous met l'enfant sur le ventre de la maman. Et j'arrêtais pas de pleurer, quoi. Enfin. Et du coup, le petit Camille est arrivé et en fait, c'est plein d'émotions différentes parce que on est hyper heureux de le voir. On est un peu fatigué, mais on n'y pense plus à ce moment-là. D'ailleurs, t'as interviewé ton papa en podcast et ça m'a fait penser à ça parce que moi j'ai perdu mon papa aussi.
Ah, ok.
Et du coup, c'était. Enfin, on y pense, quoi. On se dit, mais en fait, il va jamais connaître son papy. Alors, il en a un autre papy qui est génial. Mais il connaîtra pas mon papa. Et du coup, c'est plein d'émotions qui sont assez. Qui se bousculent, quoi. C'est la joie avant tout, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Ok, je me demandais un peu, j'allais te demander d'où te venaient toutes ces émotions-là, mais je pense que t'as en partie répondu.
Ouais, c'est ça, hein, c'est tout qui se mélange, quoi. Hein, mm-hmm. C'est vraiment assez incroyable, quoi. Et puis, au bout de, je sais pas, ça faisait 5 minutes qu'elle avait sur le ventre, et puis on nous dit, vous avez vu ce que c'était ? Ah ben non, tiens, on a à peine pensé à regarder.
Vous saviez pas si c'était un garçon ?
Non, on savait pas. Okay. Et du coup, le problème de vue, on n'y pensait même pas. Mais forcément, quand on regarde, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Moi, j'espérais avoir une fille. Et là, en fait, un petit garçon. Donc, d'un côté, un super soulagement parce qu'on se dit, lui, il sera tranquille.
Ouais.
Au niveau du problème de vue, il aura rien. Donc, une victoire. Et puis, je voulais une fille, mais un petit garçon, c'est génial, quoi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et alors, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai une question.
Ouais.
T'as quand même passé la tête par-dessus le champ pour voir la tête de ton bébé qui sortait.
Ouais.
C'était une volonté de ta part de...
Ça s'est fait sur l'instant, en fait.
Okay.
J'ai vraiment regardé, mais juste de manière à voir que sa tête, quoi.
Okay.
J'ai pas voulu aller chercher plus. Et puis, ça s'est fait comme ça, quoi. C'était vraiment sur l'instant. Elle m'a dit, la tête est sortie. Je me suis redressé pour regarder, quoi.
Okay.
Et du coup, rien de choquant. On voit une tête de bébé toute sale, et puis voilà, quoi. Et puis, par contre, tu vois, le cordon, c'est un peu le rituel obligatoire, entre guillemets, où le papa doit couper le cordon. C'est un peu, je sais pas, une espèce de symbolique derrière que j'arrive pas trop à comprendre. Mais pour moi, il était hors de question, en fait, que je coupe le cordon.
Okay.
C'était c'est un truc physique en fait. Pour moi, enfin le fait physiquement de couper le cordon, et ben implicitement je coupais le lien entre le bébé et sa mère quoi.
Ok.
C'était, je sais pas pourquoi ça, mais ça, donc j'avais dit à sa sage-femme, je veux pas couper le cordon.
Ok.
Donc sachant que c'est notre voisine, qu'elle est hyper sympa et qu'on s'entend bien avec elle, elle a dit ouais, pas de souci. Et du coup, bah, ça s'est fait comme ça, donc c'est elle qui s'est occupée de couper le cordon.
Ah, c'est intéressant, je l'avais pas. Pour moi, alors moi, j'ai pas voulu couper le cordon, mais
ouais.
Pour moi, c'était plutôt chacun fait son job, hein, démerdez-vous.
Oui, bah oui.
Mais j'avais
chacun
pas...
son boulot.
Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à l'aspect symbolique de couper le lien entre la maman et le bébé, c'est intéressant.
Ouais, mais c'est un truc, enfin, j'y avais jamais pensé avant, mais en fait, c'est pendant la grossesse. Ça arrive des fois des gens qui vous disent mais vous allez couper tu vas couper le cordon bah non en fait non j'en ai aucune intention en fait et on y réfléchit on se dit bah non pourquoi couper le lien entre la mère et l'enfant quoi.
D'accord.
Donc voilà puis bah écoute je c'est pas du tout un manque quoi et puis donc après bah, un petit garçon qui s'appelle Camille et puis bah,
est-ce que vous, j'ai une question à la con, mais est-ce que vous avez choisi un prénom mixte pour pas avoir à choisir de prénom?
Non, du tout. En fait, on avait plusieurs prénoms de filles, on en avait plein, et on avait du mal à se décider. On avait chacun nos coups de cœur, donc mais qui plaisaient pas du tout à l'autre. Donc on a dit bon bah non. Et puis plusieurs mois, deux trois mois avant. Je dis à ma compagne, je dis bah écoute pour un garçon, moi j'aimerais bien Camille. Je me rappelle de, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. J'avais rencontré un autre gamin en vacances qui s'appelait Camille et qui était hyper gentil, hyper sympa, qui s'occupait super bien de son petit frère, qui était tout petit et ce prénom-là m'est resté comme quelqu'un de gentil quoi.
Ok.
Un beau prénom donc. Et ma compagne a dit bah écoute t'adores tellement ce prénom, j'ai rien contre. Donc, vas-y quoi. Et du coup, au final, elle adore.
Ok.
Puis bah après, le prénom de fille, on s'est décidé une semaine avant. Enfin, elle avait un autre coup de cœur et c'est moi une semaine avant que j'ai dit bon allez, t'as accepté pour Camille, donc j'accepte pour ton coup de cœur. Mais bon, j'avoue, je préférais Camille quand même. Donc je suis content que ce soit un garçon.
Ok. Comment se passent les premiers jours avec le fiston?
Bah écoute,
c'est tout récent hein, parce que ça fait quelques mois là, c'est ça?
Il est né le 1er décembre là, donc il va bientôt avoir 4 mois là, à l'heure où on parle. Bah écoute, les premiers jours, premier jour fatigué mais heureux, salle d'accouchement, nous on le voit faire ses premiers pas, parce que la sage-femme le tient sous les aisselles, est un réflexe archaïque, un peu comme les animaux dans la nature qui doivent se lever tout de suite pour fuir les prédateurs, ça doit venir de là.
Ouais.
Et du coup, on le voit marcher, il ouvre déjà grand ses yeux. C'est juste incroyable. Et puis il y a tout le côté qui vous prend dans les tripes parce que c'est votre bébé et en même temps il y a le côté on va dire professionnel derrière où le kiné qui revient où le mouvement, moi je me dis ouais, ça marche déjà, les articulations, les muscles, tout ça. À côté, je suis allé voir le placenta et tout ce truc là et c'était super. Et puis bah après première nuit à la maternité,
je crois que c'est vraiment écoute, ça fait 60 épisodes que je fais, je crois que c'est la première fois que j'ai un daron qui me dit je suis allé voir le placenta, c'était super.
Ah non, attends, j'ai un souvenir d'un papa qui a dit ça dans tes podcasts.
Ah merde,
c'est,
ok.
C'est Bruce de Y penser.
Ah oui. Bien sûr, le fameux Bruce qui est curieux de tout.
Oui, voilà, mais enfin, Bruce, c'est pas très étonnant. Quand il a dit je suis allé voir le placenta, je me suis dit oui, bah c'est normal. Quoi. Et du coup, bah, les premiers soirs, bah, rien de prévu pour le papa, encore une fois. On a eu de la chance, il y a beaucoup de chambres doubles à la maternité d'Angers. Et peut-être du fait qu'on connaissait la sage-femme, on a réussi à avoir une chambre seule. Et du coup, bon, bah, ma compagne me dit, bah, écoute, tu rentres. Ce soir-là, j'ai dormi chez ma maman qui habite pas loin. Je suis tombé comme une masse, quoi.
Bah oui.
Et en fait, je retourne le lendemain à la mater et ma compagne n'avait pas dormi de la nuit, le stress, premier bébé. Donc je dis, bon, bah, écoute, ce soir, je dors là, je demande un lit. Donc je suis allé demander aux équipes un lit. Et puis, nuit d'enfer. Et en fait, on est resté 6 jours à la maternité.
Ok.
Et bah, c'était hyper dur parce que le bébé, en fait, Camille, mettait 45 minutes à pleurer quand on le mettait au sein. Parce que il voulait pas manger. Mais en fait, ce qu'on a compris par la suite, c'est aussi... Dès la naissance, la personne qui a fait la première mise au sein, elle l'a un peu forcé. Et en fait, les bébés, des fois, ils ont des glaires dans l'estomac à la naissance. Et c'était le cas de Camille. Donc, quand t'as l'estomac plein, bah, t'as pas faim, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ça avait peut-être été un traumatisme pour lui dès le début. Et du coup, mise au sein hyper difficile. On est resté parce qu'il a perdu pas mal de poids. Heureusement, on a eu quelques personnes sympas. La majorité des soignants étaient hyper sympas, hein, y a pas de souci. Après, le problème, c'est en fait, c'est les discours qui sont tous différents, quoi.
Entre les différentes personnes, c'est ça?
Ouais, exactement. Parce que un coup, ouais, mais faut pas le réveiller. S'il dort, c'est qu'il a pas faim. Un coup, ah oui, mais faut le réveiller parce que toutes les 3 heures, faut qu'il mange. Un coup, faut pas faire comme ça. Un coup, faut lui donner du supplément. Un coup, faut pas lui donner. Enfin, ça a été. En fait, c'est hyper crevant. Et quand t'es, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, quoi, d'être parent. Et là, quand on vous donne plein de conseils dans tous les sens. C'est hyper perturbant, hyper fatigant et stressant, quoi. Alors, il y a eu quelques personnes, on a eu notamment Muriel, une auxiliaire puéricultrice d'Angers, qui a été géniale, qui a pris son temps avec nous. Au final, quand on est sorti, il mangeait toujours pas bien, mais il avait repris du poids un peu. Et notre sage-femme libérale est venue le soir même, elle a demandé à avoir une mise au sein, parce que pour ma compagne, c'était hyper important de l'allaiter. Et la sage-femme, elle a dit, vous arrêtez tout, parce que là, c'est un traumatisme pour vous et pour Camille.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, en fait, on a pris un tire-lait.
Okay.
Je sais, je connais ton amour pour le tire-lait, pour cet objet magnifique.
qu'est-ce que j'ai dit? C'est juste, j'ai croisé... Est-ce que c'est... Putain, mais tu connais plus de trucs que moi sur ma propre vie. Qu'est-ce qui se passe?
Non, pas sur ta propre vie, sur ta vision du tire-lait.
Ah oui.
T'en as parlé dans...
Oh là là.
Dans certains assez traumatisants pour toi. Où tu...
disons que j'aurais préféré ne pas voir ça, tu vois.
Ouais, comme quoi, c'est vraiment... Il n'y a pas une parentalité, il y a des parents, quoi.
Bah oui,
on est tous
sûr.
Différents. C'est ça qui est génial, d'ailleurs. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, on a mis en place le tire-lait. Donc, avec les biberons, c'était génial. Et puis, ça marchait bien. Moi, ça m'a permis aussi de m'inclure dans le truc, de lui donner le biberon.
Oui, ça, c'est sûr.
Ouais. Et après, à côté de ça... En fait, on voulait donner le lait maternel aussi parce que ça permet de donner tous les anticorps, les protections et tout ça. Enfin, mm-hmm. C'est quelque chose qui a changé au niveau médical, où il y a quelques années, c'était l'époque de ma maman, enfin, qui a 73 ans cette année. Enfin, c'était archaïque, quoi.
Ah bah oui.
C'était dans les fermes, il y a 100 ans, qu'on donnait le sein. Aujourd'hui, il y a du lait en poudre. Profites-en, quoi.
C'est très post-68-art, quoi, tu vois.
Ouais, exactement, ouais. Et aujourd'hui, bah, on y revient parce que la science prouve que c'est important.
Ouais.
Et du coup, on voulait vraiment, vraiment donner le sein. Au moins le lait maternel. Donc on a fait ça pendant un mois et puis notre bébé avait des reflux gastriques, ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien, donc il y a trop d'acidité dans l'estomac et le clapet qui ferme l'estomac chez les bébés, il n'est pas mature, c'est pour ça qu'ils ont souvent des régurgitations. Mais là, comme l'acidité était trop importante, en fait, ça lui brûle l'œsophage. Du coup, ça leur fait mal. Du coup, tu vois des médecins, t'attends pour voir le pédiatre, parce qu'il faut de la place. Et puis, on donne du gaviscon. Puis finalement, on donne de l'inexium, parce que le gaviscon, ça marche pas. Et puis bah, là, ça s'est amélioré. Et puis, des nuits courtes, mais une période intense, quoi. Avec un congé paternité qui est vraiment trop court. On est content le premier jour de retourner au travail après 15 jours à la maison pour en parler de tout ça. Et en fait, au bout de 2 heures, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, quoi. Ah ouais. De retourner voir sa compagne et son enfant, quoi. Après, à part ce RGO, ça s'est quand même globalement bien passé. Après, j'ai repris une semaine de boulot. J'étais en vacances de Noël. Après, je suis retourné au boulot. Ça s'est bien passé, ouais. Bah, après, le truc, c'est que, en tant que déficient visuel, il y a ce truc où on se dit est-ce que je vais y arriver, quoi ? Est-ce que je vais réussir à m'en occuper ? Et pour moi, il était hors de question de ne pas réussir à m'en occuper. Il y a une anxiété, parce que est-ce que je vais réussir à lui changer la couche sans oublier de caca, parce que je ne l'aurais pas vu Et en fait, au début, la maman s'en occupe beaucoup. Il faut faire sa place, quoi. Dès qu'on dit « Attends, je vais le faire », elle dit « Non, attends, je m'en occupe ». C'est pas parce qu'elle avait peur que je fasse mal, c'était parce que c'est son enfant. Et vraiment, c'est un discours que j'ai déjà entendu dans plusieurs de tes podcasts. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que si on veut, c'est hyper facile de laisser faire, quoi. De dire « Ouais, bah ok, vas-y, tu t'en occupes, moi je dors, quoi ». Et en fait, faut pas rentrer dans ce truc-là. Donc, si on veut vraiment s'en occuper, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut s'y mettre tout de suite et dire non, il faut que je m'en occupe. Si je veux savoir faire quand tu reprendras le boulot, ma compagne étant infirmière, un coup elle part à 6h le matin, un coup elle rentre à 21h30 le soir. Il y a un moment, moi j'ai des horaires conventionnels, il faut que je sache m'en occuper tout seul, quoi, de A à Z. Et du coup, à la maternité, j'en avais parlé à une auxiliaire qui a pris son temps pour que je puisse lui donner le bain et qu'elle m'explique tout. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que la première fois que je lui ai donné le bain, c'était le deuxième bain qu'on lui donnait, mais le premier que moi je lui donnais. J'ai dit à mon fils, écoute Camille, papa il a des problèmes de vue. Il va falloir être indulgent, il va falloir que tu sois calme parce que papa il est un peu stressé. Et là le truc incroyable, parce que le premier bain, ma compagne avait donné, mon fils bougeait dans tous les sens comme tous les bébés. Mm-hmm. Et quand moi je lui ai dit ça, il s'est arrêté de bouger, mais alors net, il ne bougeait plus. Il me regardait vas-y papa, fais ton job, je me contiens. Je garantis rien après, mais je me contiens. Et tout le temps du bain, il a été hyper calme.
Et est-ce que tu étais calme aussi, toi, de ton côté, tu penses ?
Ouais. Moi, j'étais stressé intérieurement, mais je lui ai dit, quoi. Je lui ai dit. Pareil, comme il y a des années, on ne parlait pas au bébé, moi, je lui ai dit, écoute, je t'explique. Papa, il est un peu stressé, il ne sait pas faire, c'est la première fois. Je sais pas s'il a compris ou s'il a senti quelque chose qu'il fallait qu'il s'arrête de bouger. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, à la maison, depuis, j'ai donné plusieurs fois le bain, sans problème. Ma compagne le fait beaucoup parce qu'elle adore ce moment-là.
Ouais.
Mais aller changer les couches, préparer le biberon, moi, je m'en occupe. Et la preuve, c'est que quand ma compagne a repris le boulot, le premier jour où je l'emmène chez la nounou, là mon fils il me dit ce matin papa c'est ton baptême du feu, maman elle est pas là, je digère le biberon tranquille, un quart d'heure d'avant je me dis oh, on est bien pour l'emmener chez la nounou, on a le temps, et là il me regarde, il fronce les sourcils, il enlève les jambes, et là le petit bruit dans la couche qui dit tout, Le truc génial pour le premier jour. Donc, caca pour papa le matin, dès la première couche. Et puis, ça s'est bien passé, quoi. Heureusement que j'avais... Et c'est là où je me dis, heureusement que j'avais pris ma place dès le début de papa et de m'en occuper, de vraiment m'y coller, quoi. Parce que sinon, ce jour-là, j'aurais été dépassé, je ne savais pas faire. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le problème de vue, c'est pas un problème, quoi.
C'est ce que j'allais dire, c'est que jusque-là, t'en parles pas beaucoup, en fait, dans ton...
Ouais.
Dans ton
et parcours. En fait, c'est vraiment un truc qui m'inquiétait. Et en fait, non. Alors, il y a des fois, on a des frustrations parce que quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou que la lumière ne s'y prête pas à ce moment-là, il me sourit et c'est ma compagne qui me dit « Hey, il te sourit !» Et là, ouais. Tu te dis « Mince, il est dans son lit, je ne l'ai pas vu sourire. » Mais en fait, au bout d'un moment, on le sait, quoi. Enfin, on le sent, à sa manière de bouger, on voit bien, s'il va pas bien. La plupart des sourires, en fonction, quand la lumière est bonne, je les vois, quoi. Mm-hmm. Je les vois et on a des interactions et je joue avec et je m'en occupe, quoi. Donc, et en fait, ce problème de vue n'en est plus un. Et là où avant, sortir dans la rue avec une canne, ça me coûtait, en fait. Maintenant, je l'emmène chez la nounou avec le porte-bébé. Je prends, même si j'y vois bien parce qu'il fait jour et qu'il n'y a personne dans la rue à ce moment-là et je ne prends pas trop de risques, je prends la canne quand même par sécurité. Et je l'accepte totalement, en fait.
Ça te coûtait vis-à-vis de l'extérieur, c'est ça, des regards extérieurs ?
Ouais, c'est ça, exactement, ouais.
Ok.
Et en fait, je l'accepte totalement et je m'en fiche, quoi. La canne, c'est juste un outil pour la sécurité de mon fils. Et c'est le plus important, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un truc qui aujourd'hui n'est plus un problème. Beaucoup d'appréhensions qu'on sautait.
Pardon, excuse-moi.
Ouais, vas-y, vas-y.
Non, mais je te demandais, tu crois que le fait d'être papa t'a permis aussi de pouvoir mûrir et d'avancer sur ta maladie ?
Complètement, ouais. Okay. Complètement, parce que avant c'était mon problème que j'acceptais bien, mais le problème de vue en lui-même je l'acceptais, mais c'était tout ce qui était regard extérieur ou enfin que je m'inventais des regards extérieurs qu'il y a ou qu'il y a peut-être pas et je m'en fous maintenant, utiliser la canne blanche, c'était une épreuve, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, je m'en fiche complètement parce que la canne blanche, c'est pour que mon fils soit en sécurité. Et le plus important, c'est que mon fils aille bien et que je sache m'en occuper. Et que malgré ce problème de vue-là, je m'en occupe et je suis autonome avec lui. Et s'il faut l'emmener chez le pédiatre, je peux l'emmener chez le pédiatre. Et c'est pas un souci et j'ai besoin de personne, quoi. Et ça, c'est plus une fierté qu'autre chose, en fait.
Il y a deux choses aussi dont tu me parlais dans ton mail et que j'aimerais bien aborder avec toi. Tu me parlais de l'absence de réponse des professionnels de santé face à la paternité et le handicap visuel.
Ouais, c'est vrai que... on en a parlé notamment pendant les échos où on me dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Parce que pour s'occuper d'un bébé avec une... c'est une appréhension qu'on avait tous les deux en couple et qui est légitime. Hein, du coup, ma compagne voulait qu'on rencontre quelqu'un pour nous aider, pour nous expliquer, nous trouver des astuces, pouvoir avancer facilement, en fait, prévoir l'arrivée du bébé, en fait.
Okay.
Prévenir les problèmes. Et ça fait pas partie du cursus de formation parce que c'est un cas sur des milliers où il y a un parent qui est déficient visuel. Du coup, il y a rien de programmé là-dedans, en fait. Il y a rien de... Ils sont démunis, c'est ça. Les professionnels sont démunis face à ça. ils connaissent pas, ils se renseignent, mais demander peut-être à des associations, puis les associations nous disent oui, je sais pas trop, et puis les professionnels vous disent non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Mais en fait, on ne demande pas à ce qu'on nous dise ça va aller.
Oui.
Ce qu'on nous demande, c'est quelque chose de concret pour pouvoir être rassuré en fait dans les actes. Mais et c'est ça, mais en fait on comprend leur réponse en disant ça va aller, mais quand on a un problème on sait pas si ça va aller.
Ouais, je comprends.
Et du coup en fait ça, effectivement ça allait très bien, mais il fallait le savoir et avoir des astuces, et peut-être que ça nous aurait rassuré en fait.
Et donc, tu disais, les associations vous en ont pas forcément donné, c'est ça ? Si jamais il y a des conseils à donner à des gens qui nous écouteraient, quoi, tu vois, on ne sait pas.
Eh ben, des astuces, on en a vu en fait plutôt par le biais de vidéos sur Internet où tu as des parents qui étaient des parents avec des handicaps qui venaient à des émissions, des choses comme ça, et notamment une maman qui disait que elle prenait des seringues graduées, elle savait que ça allait, la seringue, je sais pas moi, si elle fait 50 millilitres et qu'elle a besoin de 150 millilitres dans le biberon, elle retirait plusieurs fois 150 millilitres. Des astuces comme ça, ou alors choisir ses biberons pour que les traits soient mieux marqués, ou moi ce que je fais, j'ai du mal à lire les graduations sur le biberon, petit truc que j'ai déjà fait, j'ai pris un bout de sparadrap, une fois que j'ai trouvé la bonne graduation, je mets le bout de sparadrap, ce qui fait que ça m'aide pour changer les couches. Effectivement, je sais pas forcément s'il reste du caca sur les fesses ou quoi, je repasse une compresse propre, et tant qu'il en reste, je repasse, quoi.
Ouais, je comprends.
Et une fois que la compresse est vraiment propre, c'est que c'est bon, quoi. Puis quand tu laves un pipi, de toute façon tu laves partout, quoi.
Ça c'est
donc,
sûr.
Donc du coup en fait ça se fait, c'est vrai que ça se fait très naturellement. Mais même l'association par laquelle je suis passé pour le centre de base vision à Angers, où j'ai pris des cours de locomotion et j'ai fait de l'orthopsie, ils n'avaient pas d'astuces à me proposer parce que je me débrouille bien avec mon handicap visuel, j'arrive à compenser avec mon téléphone. Quand j'ai pas assez de lumière, je vais mettre la lumière de mon téléphone. Si c'est trop petit pour lire, je vais prendre en photo avec mon téléphone. Et puis je vais pouvoir agrandir sur la photo.
Zoomer,
voilà. Donc du coup, enfin, ils m'ont dit, écoutez, on n'a rien à vous apporter, quoi, parce que vous vous débrouillez très bien. Mais il y a pas de parcours en fait de prévu pour ça.
Ouais.
La parentalité et le handicap visuel.
Autre chose dont je voulais te parler, c'était, tu m'as parlé des réflexions que tu as pu entendre à propos du fait de faire un enfant et de pas pouvoir s'en occuper. C'est
ouais, c'est surtout une réflexion. En fait, on était au mariage d'un copain où on est la copine d'un ami qu'on voit pas souvent, qui est un super copain. Et ma compagne et moi, on discutait avec quelqu'un d'autre et on n'a pas entendu cette réflexion-là où la nana a réussi à sortir. Hey, mais pourquoi elle a fait un enfant avec lui? Avec ses problèmes de vue, il pourra pas s'en occuper. Et ça, quand on m'a redit ça derrière, alors ça a mis en furie tous les copains et les copines de notre groupe, mais ce qui fait chaud au cœur aussi. Mmh. Et quand on vous redit ça, on se prend une claque, quoi. Ma compagne était enceinte à ce moment-là. Waouh, ça. Et en fait, je me suis pas dit, c'est vrai, elle a raison. Je me suis dit, mais hors de question que j'arrive pas à m'en occuper, et je lui prouverai à elle et qu'elle a tort, et je me prouverai à moi aussi qu'elle a tort. Et en fait, je m'en occupe très bien, quoi. Donc c'est pas des réflexions, enfin j'ai pas entendu beaucoup de réflexions, mais cette réflexion là, c'est vrai que ça prend au trip, quoi.
Ah, j'imagine.
Donc et puis au final, elle avait tort. Je m'en occupe très bien, il y a pas de souci.
La preuve.
La preuve.
Donc, si t'écoutes le podcast, tu sais qu'il y a une dernière question que je pose à tous mes invités.
Vas-y, je suis prêt.
Tu l'as préparé, j'imagine.
Je l'ai préparé.
C'est à ça que je reconnais les invités qui ont déjà écouté les autres.
C'est ça.
Donc, si Camille entend ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que t'aimerais lui dire aujourd'hui?
Ouais, j'irais même plus loin que ça. Dans 10 ans, bah, j'espère qu'il va bien, qu'il est heureux. À 10 ans, ouais, c'est ça. J'espère qu'il va bien, qu'il est heureux, que tout se passe bien, qu'on n'est pas trop chiant comme parents. Mais c'est plutôt, je dirais, dans 20 ans, peut-être dans 18 ans, un truc à lui dire parce qu'on a fait partie, nous, de la génération où nos parents n'avaient pas forcément accès aux études, où passer le bac, c'était déjà énorme. Et du coup, bah, ils se vengeaient un peu sur nous. Et nous, il fallait qu'on passe le bac général, il fallait qu'on passe un bac caisse, il fallait qu'on fasse des grandes études. Moi, je me suis posé la question quand on me dit « Alors, c'est bon, t'as déjà choisi son école pour plus tard ?» Eh ben non, en fait. Ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que tant qu'il se respecte lui et qu'il respecte les autres, il peut faire le métier qu'il veut. Je m'en fous, je serai toujours fier de lui. Voilà.
Bah, c'est cool.
Ouais, je trouve aussi.
Dernière petite question liée à l'actu. Comment ça se passe pour vous à Angers? Parce que tu disais tout à l'heure que vous êtes tous les deux personnels soignants. Est-ce que vous êtes sur le front tous les deux d'une manière ou d'une autre?
C'est un peu particulier parce que oui, effectivement, l'ambiance des hôpitaux a franchement changé. Nous, on est dans les Pays de Loire, donc une des régions les moins touchées pour l'instant. On attend la vague, mais les patients arrivent de plus en plus nombreux et de plus en plus vite, en espérant que le confinement fasse son effet. On en profite pour dire restez chez vous.
Ah bah oui.
effectivement, tout l'hôpital qu'on a connu il y a un mois n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et on commence à voir les signes de fatigue chez les collègues de Réa. Ouais. Quand on les croise, on commence à avoir la fatigue morale parce que, encore ce matin, une collègue qui me disait ça n'arrête pas. Ça arrive. Et les lits se remplissent, quoi. Donc c'est vraiment très particulier. On en arrive maintenant à faire des ménages, Moi, je m'occupe de patients habituellement avec des fractures et des prothèses. Les prothèses, on n'en voit quasiment plus parce que tous les blocs sont fermés. Les fractures, il y en a encore un petit peu, mais du coup, il n'y a pas de fracture avec les motards sur la route avec le beau soleil. Mais c'est vraiment une activité qui a changé, qui est une ambiance très particulière aujourd'hui, quoi.
Ok. Bah, voilà. Bon courage pour tout ça.
Ouais, merci Fabrice.
Puis merci à vous.
Et merci à tous les autres. Moi, j'en profite parce que c'est vrai qu'on parle toujours des soignants, mais merci à tous ceux qui approvisionnent nos magasins. Merci à tous les journalistes qui bossent encore. Merci à tous les gens qui sont dans les magasins qui sont pas forcément protégés. Et merci à tous ceux qui bossent en ce moment, en fait. Et merci à tous ceux qui restent chez eux pour protéger tout le monde.
Bon, pour revenir au podcast, merci beaucoup Morgane pour ton témoignage.
Ouais, merci Fabrice.
C'est cool, hein. Écoute, merci à toi pour cet éclairage, c'est très chouette. J'espère que ça aidera potentiellement d'autres parents, d'autres futurs parents qui ont aussi un handicap.
Qui se posent des questions, ouais. Exactement. Et bah, merci d'avoir accepté mon mail, ma proposition.
Avec un immense plaisir.
C'était super et j'adore la déco en tout cas chez toi. C'est magnifique.
Qu'est-ce que... Un grand merci à toi.
Salut Fabrice.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.